hein. Passé dans un peuplement.
Non, il y a un monde de bruit là.
Connaissance de lumière, il
a pas. Ah, c'est du tremble. Hein.
Non.
Non, non, il est en pleine forme.
Mais tant qu'il est tenu, je pense qu'il tombe pas, il casse pas.
Moi, ils sont trop secs.
Aujourd'hui, un exploitant forestier qui a 35-40 ans, qui tape dans du bois de chauffage, qui fait de la coupe à blanc, il remet en cause non seulement l'avenir de son enfant, si jamais il veut faire le même boulot, mais son propre avenir.
Dans le nord d'Ordogne, qu'on appelle le Périgord vert, il y a énormément de forêts. Et ces derniers temps, on voit vraiment des hectares et des hectares partir en fumée. Donc du jour au lendemain, il n'y a plus de bois, hein, avec les machines qui passent là-dedans. Et donc, c'est vraiment à la fois un choc psychologique et aussi un choc écologique, parce qu'on se rend bien compte des dégâts écologiques que ça provoque. Pourquoi on en arrive à des choses comme ça? Pourquoi là où ils se promenaient, où ils allaient chercher des champignons la veille, eh ben, il n'y a plus que de la terre avec des landins, enfin, c'est-à-dire des souches retournées et tout. Pour eux, c'est une violence terrible.
De toute façon, les pouvoirs publics ont décrété que la forêt méditerranéenne était une forêt condamnée et qu'on ne pouvait rien faire avec. Donc ça ne servait à rien de s'acharner dessus. Condamné à dépérir et à faire du petit bois et qu'on va planter du résineux et à faire des coupes rases. C'est une forêt sans avenir. Enfin, elle est définie comme sans avenir.
Une coupe rase, on peut quand même l'assimiler à une sorte de blessure. De blessure et qui doit être cicatrisée. C'est comme dans un corps humain ou animal. Et donc, pour l'écosystème, ça représente une dépense d'énergie importante de cicatriser cette coupe, cette blessure.
Entre cimes et racines. Une série d'émissions pour construire une nouvelle culture forestière en France, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières et avec le soutien de l'association Reliée et de la Fondation pour une terre humaine. Le Réseau pour les alternatives forestières est né en 2008 pour tenter de fédérer des groupements et des individus convaincus de l'urgence de trouver des réponses à l'évolution préoccupante de la politique forestière en France. Des initiatives et des pratiques respectueuses des écosystèmes existent en France, mais elles sont isolées, rarement relayées par les médias et ne sont pas reconnues par les milieux professionnels. Depuis sa création, le réseau a donc organisé 4 rencontres. À Sainte-Afrique en 2008, à Forcalquier et à Rodez en 2009, et enfin à Chaniac en Ardèche en 2010. Elles ont réuni une cinquantaine de participants, des bûcherons, des forestiers, des artisans impliqués dans la filière bois, des propriétaires et des citoyens investis dans les questions forestières. Elles ont pour but de mutualiser les expériences originales et d'ouvrir un débat pluriel sur l'avenir de la gestion forestière en France. Lors de chaque rencontre, des sorties sont organisées dans des forêts afin de mener sur le terrain des échanges sur les différentes méthodes de gestion. Dans cette première émission, nous évoquerons surtout le constat négatif de la situation actuelle avant de passer à certaines pistes alternatives dans les émissions suivantes. Pour commencer, écoutons un premier échange enregistré près de Rodez où nous avons passé une journée entière dans une forêt privée de 500 hectares qui appartient à un propriétaire qui cherche à développer des pratiques de gestion et d'exploitation plus respectueuses de l'écosystème. Vous entendrez Fred Lejouez de l'entreprise Eurosilva, qui mène une grande partie des travaux dans cette forêt, Gaëtan Dubus, ingénieur forestier indépendant et coordinateur du réseau, et Alain Christoffle, expert forestier chargé de la gestion de ce domaine.
On hérite de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le taillis de chênes, exploité tous les 40 ou 50 ans, soit pour le chauffage, soit pour l'industrie à l'époque.
Fred Lejouez, d'Eurosilva.
Et ici, on est dans une station naturelle qui est riche, quoi. On voit la hauteur des arbres, la qualité des chênes, et qui a été préservée parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'accès terrible pour venir là. On a réouvert la route. Et donc, à partir de maintenant, on va pouvoir éclaircir cette parcelle pour mettre en lumière les plus jolies tiges de chênes qui sont ici et qui sont concurrencés par tout un nombre de tiges qu'il est temps de venir exploiter. Là, on a un exemple de chêne magnifique, là. Et autour, on commence à avoir les plus petits qui sont en train de crever, quoi. C'est des bois qui peuvent partir en bois de chauffage, ceux qui sont en train de crever. C'est notre boulot de marquer ces arbres pour les faire exploiter, quoi.
On va identifier les tiges d'avenir, les plus jolies tiges, celles qui structurent le peuplement, et on va travailler autour d'elles, soit en prélevant des arbres complètement dominés, qui n'ont plus de vigueur, hein, bois de chauffage, soit des arbres qui concurrencent dans l'étage dominant, ce qu'on appelle des codominants, qui vont concurrencer les plus belles tiges. En l'occurrence, ici, on va quand même devoir choisir entre celle-là et celle-là. On va regarder ce qu'il y a au-delà, et là, derrière, il y a une tige superbe. Celui-là, il n'a pas trop de concurrents directs, mais très probablement, on va prendre celui sur lequel s'appuie Escander. On est d'accord ?
Le bémol de cette opération, c'est qu'il faut gérer la lumière sur les troncs. Voilà. Parce qu'ici, dès qu'il y a un peu de lumière sur le tronc, il y a des feuilles qui commencent à pousser. Ça réveille des bourgeons dormants.
Le gros problème des balivages beaucoup trop forts, hein, par exemple quand on garde 50 ou même 100 tiges hectares, ce qui est une pratique très répandue dès qu'on sort de la coupe rase. Quand on sort de la coupe rase, souvent on maintient une tige tous les 10 mètres à peu près. C'est qu'il y a une descente de cime énorme avec des troncs qui explosent en toutes petites branches. Hein, et donc forcément le bois se charge de petits nœuds et en plus ça crée un stress pour l'arbre. Parce qu'on sort un peu de l'ambiance forestière, il n'a pas connu ça. Et donc ici l'opération elle doit être prudente, de manière à ce que les arbres ne sentent pas trop qu'on a travaillé autour.
Des discussions donc très pratiques, souvent avec des termes techniques que nous essayons d'expliquer au fur et à mesure. Mais pour nous rappeler la réalité, à quelques centaines de mètres de l'endroit où cet échange a eu lieu, de gros engins étaient en train de sévir, faisant une coupe rase dans une parcelle voisine.
C'est le mode d'exploitation classique des gens du pays, c'est-à-dire c'est la coupe rase.
Alain Christophe, expert forestier.
Et les gens, ils n'ont pas la même idée sur la sylviculture et donc ils rasent, quoi. Et puis ça repoussera comme ça avec le système des taillis, effectivement.
Si aujourd'hui ce système se maintient, malgré quelque part une pression, une volonté environnementaliste, paysagère, etc., c'est parce qu'on a spécialisé la production de chênes de qualité à certaines régions. Et ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. C'est la spécialisation territoriale qui est un peu planifiée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le chêne de qualité, ça ne se produit que dans le centre de la France et dans la Bourgogne, eh bien tout le reste, c'est une idée qu'on s'est mis en tête et certains techniciens vont refuser systématiquement de subventionner en dehors de ces zones-là.
Quand on parle des coupes rases, les gens, ce n'est pas du bois d'œuvre, c'est que du chauffage. Ils sont propriétaires de leurs parcelles et ils n'ont aucune technique de sylviculture en leur possession. Et puis, ils ne veulent pas en avoir. Moi, j'ai été conseiller forestier du département pendant 8 ans et j'étais comme un curé qui prêchait dans le désert. Hein. Ça, c'est la structure de la propriété foncière, il faut l'accepter comme ça. Ou alors, il faudrait tout nationaliser et je ne suis pas sûr que l'ONF, c'est une garantie non plus.
Je veux bien répondre à ça parce que pour moi l'explication elle est dans une stratégie qu'on a posée à un moment donné dans la filière bois de la simplifier et qui s'accentue très fort parce que la filière bois pèse rien au niveau national et donc il faut la simplifier pour avoir des interlocuteurs et des schémas très faciles à gérer de loin quoi on va dire. Et donc la manière de la simplifier c'est de décider comme je disais les essences par région, les filières par région. Et ça fait très très longtemps que ça s'est installé ça. Et le résultat, c'est qu'on a une filière localement qui est devenue très simplifiée aussi, de moins en moins de scieries, qui valorise par exemple le chêne en bois d'œuvre ici. Et donc il y a une sorte d'irrationnel qui s'installe progressivement et une culture qui fait penser que de toute façon en Aveyron, le bois d'œuvre, et en particulier les chênes de bois d'œuvre, c'est pas possible. C'est un irrationnel qui s'installe et qui devient une évidence entre tous les forestiers. Dans le Tarn, moi, quand je parle de feuillus de qualité, on me rit au nez.
Hélas, pour ces pauvres feuillus précieux et de qualité, la scierie, par exemple, de nos selles, elle n'arrive pas à vendre ses sièges de qualité. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens se meublent chez Ikea et ils ne se meublent pas avec les chênes locaux. Hein, c'est Ikea. Et tous nos sièges, les meilleurs français, ils partent où? Ils partent en Algérie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, etc. Mais ils ne partent pas sur le marché intérieur.
Moi, je pense personnellement qu'on attend trop de la nature. Avec cette spécialisation, on finit par avoir une norme d'exigence qui est extrême, quoi. C'est-à-dire, pourquoi on ne va pas valoriser cet arbre-là dans 80 ans en bois d'œuvre de qualité, en menuiserie ou en ébénisterie? C'est parce qu'on le compare à des standards de qualité qui sont inacceptables pour la plupart des écosystèmes de chênaie. Il ne vaut rien. Il est hors concours, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement et qui avait, me semble-t-il, pas il y a 100 ans. On n'avait pas le choix, on prenait la ressource localement.
Mais surtout, je veux dire, ici, quand on balade, on voit des châteaux, on voit des grandes maisons, on voit des vieilles fermes. Toutes ces fermes, ils ont des poutres de chêne comme ça. Je veux dire, c'était vraiment ça qui ont dû être énormément utilisés ici.
Les châssis de fenêtres, maintenant, la norme, c'est le bois exotique. Donc on ne fait plus de châssis de fenêtres en pin comme on en faisait avant. C'est complètement à la limite. En châtaignier, on va les faire. Mais on compare ça aux meilleures essences de bois exotique. Parce que c'est mondialisé, du coup, les critères de qualité sont basés sur des trucs absolument pas locaux.
Enfin, moi, je viens de Dordogne, mais aujourd'hui, on se rend compte que les forêts sont encore essentiellement privées. Donc on transmet de génération en génération les forêts par des gens parfois qui n'habitent plus sur place.
Thibaut Darvin, paysan et propriétaire forestier en Dordogne.
Mais quand on parle de meubles et d'artisans qui font des meubles anciens, aujourd'hui les gens qui achètent IKEA, donc on critique, ce ne sont pas des meubles qui se transmettent, ce sont quelque part donc des meubles qui coûtent très cher parce qu'on les démonte deux fois, ils sont pétés. Donc, quand on avait un meuble de famille qu'on transmettait au bout de 4-5 générations, ce meuble il avait pris 4-5 fois sa valeur depuis quelque chose. Et en plus, on avait un beau meuble qui était fait par un artisan, voilà, il y avait une éducation à la transmission. Or, et quelque part aujourd'hui, c'est comme dans une société de consommation en direct et rapide, on n'a plus cette culture-là. Et c'est ça qui nous met tous en l'air, quoi.
Il y a 500 ans, les arbres se transmettaient de génération en génération. On faisait sécher, à l'époque de Stradivarius, on faisait sécher du bois pendant 50 ans. On le mettait dans une rivière pour qu'il sèche et qu'il se charge en minéraux pendant une dizaine d'années. Donc la logique déjà de séchage, de coupe, de choix, c'était une toute autre dimension. Et puis même il n'y a pas encore si longtemps, hein, jusqu'à la fin 19e, début 20e, on était encore en train de raisonner sur une ou deux générations. Maintenant on raisonne sur zéro génération. Vraiment, même sa propre génération, on la coupe, quoi, hein, on la respecte pas et c'est très très raccourci.
Vous venez d'entendre Liseron Fleury, bûcheron et forestier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Écoutons maintenant son ami Pascal Menon, également bûcheron dans cette région.
En termes de responsabilité, disons qu'il y a certaines choses que j'entends où la société civile, pour dire tout le monde, chacun, sont responsables, bien sûr. Ils sont responsables d'aller chez IKEA. Mais je trouve que ça met une couverture sur ce qui se passe en ce moment. C'est planifié. Il y a des gens qui touchent des bons salaires. Il y a des politiques. Il y a beaucoup de gens. C'est planifié. L'industrialisation est planifiée, est organisée. Et elle est en train de tout niveler. Donc, ce n'est pas le potentiel qui manque. Demain, on fait venir du scieur mobile, on scie ce chêne en planche de 10 de large, de 30 d'épaisseur, on va au marché d'à côté, le samedi, c'est sûr qu'on la vend. Et à un prix correct, qui paye le travail que ça représente. Ça, c'est clair. J'ai un copain, il a une scie mobile, de la planche, tous les jours, il en refuse. De la planche brute, tout le monde en demande, quoi. Alors, il y a un effort à faire, mais ce n'est pas uniquement au niveau de la société civile. Et à mon sens, à l'heure actuelle, en France, aujourd'hui, l'anonymat, la société civile, elle en fait beaucoup plus dans une autre direction que les décideurs, l'État et une certaine corporation qui mettent en place les choix de ces sociétés industrielles.
Quand on dit planifier, c'est une idée politiquement incorrecte, c'est-à-dire quand on la dit publiquement, ça fait mal, parce qu'effectivement, ça veut dire, on le sait, si on planifie la restructuration, la concentration, la simplification, c'est des emplois qui sont perdus et c'est de l'environnement qui souffre. Donc moi, je pense que c'est une réalité, puisqu'on entend, quand on va dans des réunions sur la filière bois, on entend des animateurs d'interprofession dire que l'objectif, c'est d'avoir des scieries qui fassent au moins 300 000 m3 par an et d'aller vers des scieries qui font 1 million de m3, puisque ça existe en Suisse, en Allemagne, donc des milliers de m3 par jour et au Canada. C'est bien que ça soit dit, ces choses-là. Moi, je préfère qu'elles soient dites clairement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se lève et qu'on dise, bon, puisque vous le dites, on va calculer ensemble à quoi ça correspond en termes social, d'emploi cassé, et en termes environnemental. Allons-y, puisque c'est une politique. Et là, c'est facile, le calcul, il est facile, entre une scierie qui fait 30 000 m3 par an, c'est-à-dire une scierie familiale de taille moyenne, et une scierie qui en fait 300 000, on divise l'emploi par 10. Et c'est des réalités statistiques. Après, il ne faut pas déplorer le fait que par an, on perd 2 ou 3% d'emploi dans le filière bois. Ça aussi, c'est planifié. Les gens sont intelligents. Je veux dire, ils ont fait des études, ils ne sont pas cons. Ils le savent. Et sur le plan environnemental, le fait que ces scieries soient obligées de faire des économies d'échelle en termes de modalités d'exploitation, et donc que ça passe forcément par l'abattage et le débardage extrêmement mécanisé, c'est une réalité. Après, on peut débattre sur la pression au centimètre carré qu'exerce un cheval par rapport à... Voilà. Mais la consommation, hein, le fait que l'abattage mécanisé consomme 5 à 10 fois plus de pétrole par mètre cube abattu qu'une tronçonneuse, ça, c'est une réalité incontestable. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contourner et ils le savent. Donc il faut en débattre de ces choses-là. Hein, c'est comme les OGM, c'est pas de l'irrationnel, c'est du rationnel. C'est des choses incontournables. Débattons-en.
Aujourd'hui, la formation, c'est quoi ? La formation de l'intervenant sur le terrain, c'est quoi ? Et ça va de pair avec l'évolution de la société et des cultures et de notre pratique au quotidien. C'est on forme plus de gens à manipuler un joystick dans une cabine que de gens à manipuler une tronçonneuse sur le terrain.
Mustapha Bounzel, élagueur et animateur de l'association Au bonheur des arbres, dont l'Hérault.
Il y a un véritable manque de formation, d'accompagnement. C'est la société, hein. Ça paraît simple, mais on manipule le joystick, on manipule moins la tronçonneuse aujourd'hui.
Parce que le joystick fait plus tourner le système que la tronçonneuse, elle ne fait pas tourner le système. Ben en fait, le problème des subventions et du financement, c'est qu'on fait tourner une grande chaîne. On fait tourner l'industrie de l'acier, on fait tourner l'industrie de l'électronique, de la nanotechnologie aujourd'hui avec tous les microprocesseurs qui sont dans les machines. Et donc, on forme les gens à la mécanisation parce qu'on fait consommer. Le résultat, c'est ça, on fait plus consommer dans le machinisme que dans le travail manuel. Le travail manuel ne rapporte rien à la société globalement.
Mais ils font 70 heures, les types.
Ah ouais, j'avais vu un mec, il bossait 3 jours
même
par semaine.
Même la nuit, ils font les 2-8. Oui,
oui. Ils faisaient 50 heures de boulot par semaine en 3 jours et demi.
Ben c'est fou, hein. Oui, oui.
Ils descendaient du Jura. Il partait dans la nuit du dimanche. Donc il arrivait à midi sur le chantier. Oui. Le temps de préparer sa machine, il attaquait à 4-5 à l'après-midi. Il attaquait à bosser donc le lundi après-midi. Et il repartait chez lui le jeudi matin. Il avait fait 50 heures dans la semaine. Et il faisait 800 tonnes jour.
Oui, parce qu'ils sont obligés, parce que les types, ils te disent... Alors les autres, ils en profitent parce qu'ils savent qu'ils peuvent couper beaucoup par jour, donc ils diminuent les prix. Ils disent, oh ben, tu vas en faire 800 tonnes, donc je te donne que tant. Parce qu'ils calculent, ils disent, oh ben, si je lui donne autrement, il va gagner trop. Moi, je les entends, les patrons. C'est ça, comme ça qu'ils gèrent l'histoire. Ça fait 40 ans que je bosse dans la forêt, hein. Ça fait 40 ans que je défends la main-d'œuvre forestière. J'en ai fait partie, moi, de la main-d'œuvre. J'ai fait le bûcheron pendant 10 ans, etc. Et je peux vous dire que c'est le cadet des soucis des financeurs. L'homme qui travaille dans la forêt, ils n'en ont rien à faire. Et ça, c'est clair et net. Et même, le sport, c'était de faire des travaux au minimum. En disant, moi, je t'ai fait un reboisement ou une éclaircie, ça coûtait tant, parce qu'ils employaient des types, des braves types, mais qui étaient payés au noir, qui n'étaient pas des professionnels, et on écrasait les prix, etc. Et c'était ces prix-là qui servaient de référence pour donner la base d'analyse des prix. Et c'est toujours pareil. D'autant que la main-d'œuvre, c'est des entreprises autonomes. Un bûcheron, il n'est pas le salarié de l'exploitant forestier. Il est artisan. Ça a été fait exprès d'ailleurs, ce statut d'artisan, pour que les exploitants forestiers n'aient pas à charge les bûcherons.
Le marché du travail, on va dire, en France, il y a eu beaucoup de formations en élagage d'un haut niveau, et il y a beaucoup d'élagueurs sur la planche au chômage. Et les élagueurs qui pratiquent un travail irréprochable, ils ont leur place en forêt, justement pour la récolte de ce type d'arbres. On n'a absolument pas la culture de ça, hein.
Pour Liseron Fleury, c'est aussi le problème de la formation, ou même formatage, des ingénieurs et des experts forestiers. Précisons qu'il travaille comme bûcheron dans les forêts de type méditerranéen du sud-est de la France, largement composées de taillis, de chênes, de petites dimensions et de résineux.
Alors le souci, c'est qu'eux, ils ont été formatés sur une seule chose. Ils ont une vision de production, mais ils n'ont pas une vision d'écosystème. Un ingénieur forestier, on lui a parlé d'écosystème. L'écosystème en règle générale, on lui en a parlé un petit peu sur ses 3 ans d'études. Mais c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est vraiment minime. Donc lui, quand il gère la forêt, quand il gère cet endroit-là, il ne comprend pas. Parce qu'il ne s'intègre pas, lui, en tant que personne vivante et en tant qu'humain, donc la possibilité de pouvoir modifier les choses. On est vraiment confronté à un problème de formation des gens qui gèrent nos territoires. Après, quand les grands politiques, à l'échelle de l'État, gèrent le territoire, c'est encore des gens qui sortent des grandes écoles, mais qui ne savent pas ce que c'est que le milieu naturel. Mais absolument pas. J'ai discuté, j'ai posé des questions à des ingénieurs forestiers, à d'autres personnes, des ingénieurs en gestion de l'eau. Poser des questions précises par rapport à la forêt, ce sont des gens qui sont docteurs et tout. Ils ne sont pas capables de répondre à des questions qui sortent de leur cursus. C'est quand même assez fou, parce que ces gens-là, c'est eux qui gèrent nos territoires.
Ouais. Qu'est-ce qu'il disait, Coluche ? Tu files le désert à un ingénieur, 3 ans après, il faut lui livrer du sable. C'est un peu ça. Hein.
Bah, les différences d'approche, donc dans le productivisme, il y a, je dirais, il y a la démarche de productivité, c'est-à-dire qu'on a une usine de pâte à papier qui est à Tarascon, qui appartient à un groupe, un des plus grands papetiers canadiens, donc c'est Tembec. Ça fait tourner plus de 50% de l'activité forestière, mais pas qu'au niveau régional. Ça déborde aussi sur la région Rhône-Alpes. Et donc, ça, on va dire, c'est le quart sud-est alimente pratiquement en totalité cette usine. Et cette usine manipule par sa pression économique toute l'activité forestière, je dirais principale, la grosse activité forestière. Donc là, c'est la production, donc c'est de la main-d'œuvre étrangère. Il n'y a personne, sauf les patrons, qui sont de la région. C'est tirer les prix dans tous les sens. Donc c'est les propriétaires, il faut leur faire baisser les prix. On les arnaque sur la quantité. Enfin, on a des forêts qui sont vraiment saccagées. Le travail, il est très, très mal fait. C'est horrible, c'est catastrophique. Au niveau esthétique, c'est au niveau du terrain, c'est catastrophique aussi parce qu'il y a des grosses traînées. Les engins, quand ils passent, à force de passer, normalement, on ne doit pas couper sous la pluie, mais ils le font quand même. Donc, ils sortent le bois, donc ça fait des grosses ornières. Ils coupent la majeure partie des arbres. Les belles essences, les essences importantes qui pourraient régénérer les forêts avec autre chose que du résineux, se font complètement casser. Donc, ça repousse d'autant la possibilité de transformer la forêt. Donc c'est pour ça qu'ils l'abandonnent, qu'ils ne s'acharnent pas à essayer de changer le milieu, changer les politiques et de se dire on peut avoir du beau bois ici, comme ailleurs. Il sera bien sûr moins beau que dans les Pays de la Loire ou autres, mais comme la fibre est différente, les terrains sont différents, ces arbres-là peuvent être beaucoup plus intéressants. Ça, non, ils pensent que ce n'est pas possible. On n'a pas de politique d'avenir et de production de différents produits qui pourraient être issus de la forêt. Mais donc, pour revenir un petit peu, pour pouvoir justement comparer les deux systèmes, donc dans la façon productiviste, on a une main-d'œuvre étrangère, qui est soit turque, soit roumaine, soit portugaise, soit marocaine. Pour la majorité, je dirais des gros exploitants. Donc maintenant, il y a des gros exploitants qui augmentent de plus en plus. C'est-à-dire, ces dernières années, il y a quelques exploitants, j'en connais à peu près 5 sur le secteur, qui ont énormément grossi. Donc qui travaillent entre 20 et 50 personnes, qui ont des machines monstrueuses qui coûtent des fortunes, qui les obligent à travailler jour et nuit, qui se mettent des crédits pendant des années et tout au-dessus, donc ça les oblige encore plus à faire du travail de merde. Les chauffeurs sont bien payés, les ouvriers le sont beaucoup moins, ça permet de baisser les coûts de production, et puis ce sont des gens qui ne regardent pas leurs heures. Donc effectivement, moi, ça m'est arrivé qu'on me propose des Biélorusses qui travaillent 14 heures par jour, payés 30 euros par jour. Donc moi j'ai dit ça, c'est hors de question, c'était une association de Paris, qui s'occupent de ces gens-là et qui pouvaient faire le relais avec moi. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui passent par ce système-là. Effectivement, c'est très intéressant financièrement. Enfin, les gros exploitants, ils achètent des coupes, où ils sont plusieurs. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a entre 5 et 7 intermédiaires entre le bois sur pied et le bois vendu.
La responsable de la DDA, qui était sincère, elle a évoqué qu'aucun projet forestier ne pouvait voir le jour sans subvention.
Pascal Menon.
Je vous rappelle que la forêt, comme modèle terrestre, c'est le modèle le plus productif. Et quand même, le tour de force de la plupart des forestiers, c'est de rendre ce système, cet écosystème complexe qu'il faut absolument maturer. Un arbre, c'est fait pour pousser. Mais ils ont réussi à rendre cet écosystème coûteux. Il faut quand même se tenir le ventre. Hein.
Marie Clessin est propriétaire d'un petit domaine forestier en Dordogne. Récemment, elle a été choquée de constater les énormes dégâts dans les magnifiques forêts de la région, dus à des coupes rases suivies par des plantations de résineux. Elle a décidé de créer une association, Forêt sans âge, pour montrer aux petits propriétaires qu'il existe d'autres méthodes d'exploitation. Pour pouvoir mener ce combat, elle a voulu mieux comprendre la logique et les pratiques de la profession. C'est pourquoi elle a participé à des rencontres importantes sur l'industrie forestière. Les propos qu'elle y a entendus n'ont que confirmé ses pires craintes.
Alors ça s'appelait le Forum national, je crois, de la forêt privée et publique. Enfin, ça se passait à Périgueux, il y a plus ou moins un an, quoi. Et si je devais résumer un peu la réunion, c'est cultivons, d'ailleurs c'est le terme qu'ils ont employé, cultivons nos forêts pour répondre aux besoins de nos industries. Et donc on bafoue complètement, on retient que une nécessité économique, hein, ce qui amène aux pires aberrations. On ignore complètement qu'on est face à une nature avec une biodiversité et du long terme. On fonctionne au court terme. Voilà. Et c'est, ça allait même plus loin, c'est se dire, mais c'est pas possible. Il y a un tel potentiel dans nos forêts, économiques pour eux, qu'on ne peut pas admettre des propriétaires qui ne fassent rien. Donc, on pourrait même imaginer, bon, ils n'ont pas été trop loin sur ce... l'interrogation a été posée, de dire, mais si vous ne vous occupez pas de votre forêt, c'est-à-dire si vous ne la rentabilisez pas, eh ben, vous pourriez être sanctionné. Autre chose, c'est dire, ah non, il y a trop de petites parcelles, c'est ingérable, on ne sait pas envoyer les grosses machines dedans, donc ça dérange beaucoup, quoi. Comment arriver à ce que les parcelles deviennent de plus en plus importantes? Donc finalement, vous avez une parcelle d'autant d'hectares, bon, qui fait l'objet d'un héritage, bouffe, plusieurs divisions, ça, ils ne peuvent plus l'admettre. Comment ils vont essayer justement de freiner les divisions parcellaires et de faire les regroupements, je crois qu'ils commencent à se dire, on va y penser et on va mettre des instruments juridiques en marche. Or justement, moi je crois que si la forêt garde un gage de sa diversité, c'est aussi la taille des parcelles. Et de ne pas arriver à des monocultures, parce qu'en tout cas en Dordogne, il y a de plus en plus de monocultures de résineux. Et quand vous voulez introduire les feuillus, on vous dit, ah ben non, il n'y a pas de subsides. Ce n'est pas prévu par les subsides.
Mais s'il y a une accélération des coupes et destruction de forêts, est-ce qu'il y a une raison que vous voyez là-bas? Est-ce que, par exemple, il y a maintenant cet engouement pour le bois énergie, est-ce que c'est lié à ça ou...
C'est sûr que c'est lié à l'énergie. Hein. Et je crois qu'il y a eu un réveil et la tempête a été un déclencheur, malheureusement négatif, très négatif. Au niveau de la végétation, ce n'est pas trop grave, une tempête. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, oulala, autant d'espaces forestiers mis par terre, on ne peut pas laisser ça. Donc, en quelques années, ils sont arrivés à se dire, il faut envoyer les machines. Mentalement, les propriétaires qui n'auraient jamais imaginé d'envoyer une machine avant, de mettre à blanc leur terrain, eh ben, ils ont été face à un spectacle de désolation pour eux. Ils n'ont pas compris qu'en fait, sous les arbres enchevêtrés et tout, il y avait de la végétation qui repartait. Ils l'ont vu, bon, ça fait près d'une dizaine d'années, ils ont vu, oui, il y avait des repousses, mais pour eux, il y a encore toutes ces souches à l'envers, ces troncs d'arbres, les ronces, mais qui vont disparaître. Hein. Et donc, on leur a proposé de leur faire une très belle forêt par la suite. C'est-à-dire qu'on leur a dit, notamment le CRPF, ben, écoutez, on peut nettoyer vos bois, et vous allez retrouver une forêt domestique, bien rangée, propre. Et donc la tempête a eu un effet traumatisant et qui a permis l'entrée de ces machines. Comme si le traumatisme de la machine avait déjà été atténué par le désastre provoqué par la tempête. Je crois que c'est essentiellement parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a une alternative. Les pouvoirs publics leur présentent comme une évidence qu'il n'y aurait qu'une solution unique. C'est terrible parce que ces gens-là, même une forêt abîmée, c'est une forêt. Il y a des choses encore, il y a des arbres et tout. Le lendemain, il n'y a plus rien. Ils en pleurent. Et puis quand ils passent au repeuplement, on leur dit, ah non, pas de feuillus. Non, non, qu'une essence. Ou exceptionnellement, quelques petites parcelles, vous pourrez faire un petit mélange. Mais de toute façon, grosse majorité en résineux. Or, chez nous, ce n'est pas le paysage. Déjà, ce n'est pas les résineux qui sont dominants, ce sont les feuillus. Et donc, tout le paysage va être bouleversé. Non seulement on avait une diversité des couleurs, des structures, des essences, et ici, qu'est-ce qui va se passer? On a des hectares avec une monoculture en ligne et qui vont passer en coupe-rase tous les X temps. Et donc, justement, je crois que ces gens, ils en pleurent maintenant parce qu'ils disaient, mais on ne nous a pas laissé le temps et on ne nous a surtout pas proposé une alternative.
Ces dernières années, des collectivités locales ont mis en place des chartes forestières. L'Iseron fleuri, bûcheron dans la région de la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence, craint que ces initiatives servent plutôt les intérêts des industriels.
C'est un outil pour localiser et organiser l'exploitation des 80% de forêts privées qui font moins de 20 hectares en France. Donc je m'explique. Il y a la loi française sur la gestion forestière oblige les gens à avoir un plan de gestion de leur propriété forestière quand une parcelle fait plus de 20 hectares. Donc tous les gens qui ne sont pas soumis à un plan simple de gestion, PSG, qui ont moins de 20 hectares d'un seul tenant sur une de leurs parcelles cadastrales, ne sont pas soumis à ce PSG. Donc ces gens-là, c'est une mine d'or aujourd'hui. C'est vraiment une mine d'or. Ça représente 80% de la forêt privée. Donc 80% de bois à exploiter. Il faut savoir que dans ces 80%, comme on a exploité le reste, ce sont souvent des forêts qui sont matures, donc à haut rendement d'exploitation immédiat. Alors la charte forestière, de mon point de vue, de ce que j'ai pu analyser dans les privatisations, dans les machins et tout ça, et appropriation du privé dans le territoire, c'est la possibilité de pouvoir donner à manger à ces énormes structures privées, donc qui sont les coopératives forestières, et entre autres, ou alors des énormes scieries ou la papeterie de Tarascon. Je vais quand même vivre le quart sud-est de la France au niveau de l'exploitation forestière. Donc c'est une puissance financière qui est énorme au niveau du nombre de personnes qui sont embauchées. Donc ils font un peu la pluie et le beau temps. Les chartes forestières permettent de localiser à travers des budgets. Donc hein, on répertorie les propriétaires, leur surface, les dénivelés, la quantité de bois. Ça permet d'inventorier précisément. C'est-à-dire c'est une organisation de la future exploitation au détriment des propriétaires. Ça chante bien, une charte forestière, c'est super. Moi, au début, j'ai été complètement emballé, j'ai trouvé ça génial. Un super projet, il y a enfin un projet de territoire sur les espaces. Et après, j'ai été profondément dégoûté, je dirais même dégoûté avec une violence interne, l'irrespect de la population et vraiment l'irrespect de la nature. Et en fait, c'est un outil de privatisation. On est en train de s'autofinancer avec nos impôts. On finance la possibilité à ces industriels de pouvoir exploiter le gisement de production de ces surfaces, ces fameux 80% de la forêt privée française, qui, je le rappelle, représente 70% de la forêt du territoire national.
Dans certaines régions, la volonté des animateurs de chartes forestières et de ceux qui les accompagnent mène ponctuellement à des belles réalisations autour de filières courtes et de concertations locales. Mais dans l'ensemble, les chartes sont un outil parmi d'autres pour stimuler la mobilisation du bois.
Là, les arguments des fois avancés pour les petits propriétaires, c'est quoi ? ils ont subi la tempête, ils voient leur bois inaccessible, en désordre. Et ce que vient de dire certains techniciens forestiers, et allez, le CRPF, c'est de dire, on va vous la rendre propre, vos forêts. Vous allez voir, elle sera propre. Et qu'est-ce qu'ils cherchent des fois? L'opération blanche, les propriétaires, ils ne cherchent même pas de gagner de l'argent. On a inculqué une notion de propre et d'ordonné. Il suffit de voir les jardins. Il faut que le gazon soit coupé, que l'herbe soit ramassée et tout. Et ben on a transposé, moi j'ai l'impression, ça dans la forêt. Et donc du bois mort, c'est du désordre, il faut enlever. Et c'est terrible parce que les arguments, en tout cas, on vient de la Dordogne, et on se rend compte que l'objectif des petits propriétaires, ce n'est pas gagner de l'argent. Ils aiment leur forêt. Mais suite à la tempête, ils sont désorientés et on leur a avancé l'argument de la propreté, de l'ordre. Et donc, on leur dit, mais vous inquiétez pas, on va vous rendre une forêt, mais nickel. Et c'est terrible parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent des coupes rases pour le nickel. Hein.
Les villes, enfin, il faut savoir aussi que maintenant 80% des gens vivent en ville et la notion de symétrie, d'organisation aussi au carré, on le voit aux États-Unis, hein, c'était incroyable de regarder les États-Unis du haut, voir comment elles s'est organisée. Et donc on trouve que la normalité aujourd'hui c'est ça, c'est la symétrie.
Thibaut Darvin, paysan en Dordogne.
Et il n'y a pas plus asymétrique que la nature. Par essence même, la nature est asymétrique. Donc, dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, il faut que la nature ressemble à ce qu'on voit tous les jours. Pour quelqu'un qui vit en ville, devenir en forêt, c'est avoir un beau chemin blanc bien balisé qui rentre au milieu des arbres. Et une forêt propre, c'est quoi? C'est une forêt, effectivement, où il n'y a presque pas de déchets. Là, on regarde autour de nous, il y a énormément de ponts qui sont tombés, d'arbres morts. Ben, des arbres morts, c'est sale. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que dans cette volonté aujourd'hui qu'on a d'exploiter la forêt à tout prix jusqu'au bout, c'est que même dans les déchets, c'est-à-dire qu'on appelle déchets de la forêt, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va valoriser en plaquettes, qu'on va faire de l'engrais vert avec, et peu importe, c'est qu'on ne laissera rien à la forêt. C'est-à-dire que ce qui a servi à ce que cette forêt existe, c'est-à-dire l'humus qui s'est composé par décomposition d'arbres successifs, n'existera plus parce qu'on aura justement tout exploité et que les gens qui viendront des villes se diront « Ah voilà, une belle forêt, c'est bien propre voilà. ».
Je suis pleinement d'accord sur la question de la propreté. Par contre, ce n'est pas l'apanage de la société citadine. Dans le rural, c'est très très présent aussi, hein, parce que tout le vocabulaire, assainir les marais, les plantations de résineux qu'on a fait sur les marais, même si aujourd'hui on sait qu'économiquement c'est pas intéressant, on continue dans certaines régions à le faire, parce que viscéralement, culturellement, c'est dur à voir. Bon, il y a aussi tout un passé, les moustiques qui transmettaient les maladies, etc. Donc on a du mal à sortir de ça, de ce qui nous fait peur. Hein, c'est la peur de la nature de François Terrasson, vous avez vu le bouquin. Ce qui nous fait peur dans le fait du chaos et de la saleté de la nature. Quoi.
Pour conclure cette première émission, nous avons demandé à Gaëtan Dubus de nous brosser un aperçu de l'histoire de l'exploitation forestière en France.
Quand on parle d'industrialisation, même si ce n'est pas l'image qu'on en a aujourd'hui, l'industrie basée sur la ressource bois, elle date de plusieurs siècles. Au XVIIIe siècle, il y avait déjà des industries du verre, des industries du métal qui fonctionnaient sur l'énergie bois. Et donc les forges ont énormément exploité la forêt. Donc la question de l'exploitation forestière, elle est absolument pas récente. Par contre, ce qui est récent, on va dire, c'est la transformation de la forêt en termes de composition hein, d'essence. L'introduction des résineux, c'est quand même assez récent. L'introduction de la mécanisation en forêt, c'est extrêmement récent. La surexploitation de la forêt n'est pas récente. Par contre, ça c'est clair, puisque les défrichements, à un moment donné, ont été extrêmement intenses. C'est depuis 1850 à peu près qu'on a une recrudescence des surfaces forestières. On se retrouve aujourd'hui avec une surface forestière qui est d'à peu près 30% en France, alors qu'on était à 8% en 1850. Donc la surface forestière a grandi, mais par contre, sa physionomie a complètement changé. Et ça, c'est assez récent.
Ça veut dire en fait que l'impact de l'homme, si on veut, a beaucoup augmenté parce qu'on a décidé de transformer la nature même de la forêt en apportant d'autres espèces, c'est ça?
Bon, la nature même de la forêt, elle a été modifiée du fait des surexploitations au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. On exploitait même la litière, on exploitait les brindilles, on exploitait l'écorce.
Donc il y avait un très fort prélèvement en forêt. Par contre, on ne reconstituait pas des écosystèmes complets, comme on l'a fait avec les résineux et plus récemment l'eucalyptus. Donc les surfaces forestières actuelles, elles sont en bonne partie le résultat d'une reconstitution d'écosystèmes à partir de taillis dégradés, de landes, de prairies, de friches, et ça c'est très nouveau.
Et même, si je ne me trompe pas, il y a eu des périodes assez lointaines quand même, où il y a eu des cris d'alarme. Je crois que c'est un peu le rôle de Colbert à l'époque. On a dit, attention, on est en train de trop couper, trop massacrer des forêts. On va perdre notre richesse en chêne ou autre. Donc le roi de l'époque dit, allez, il faut agir, quoi.
Ah, ça, c'est très intéressant, effectivement, dans l'histoire forestière. Puisque les paysans, donc les hommes du pays, avaient des droits importants de pâturage, de pacage et de prélèvement de produits en forêt, qui se sont vus progressivement diminuer avec ce qu'on appelle le cantonnement des droits d'usage. Il y avait autour de chaque village, on pourrait faire un schéma pour le représenter, les terres de culture, et puis les prairies, et puis les parcours, et puis les forêts dans lesquelles les paysans avaient des droits, et puis les forêts seigneuriales. Les forêts seigneuriales, c'est là où on produisait du bois d'œuvre. Et les forêts qui se situaient entre, on va dire, les terres agricoles autour du village et les forêts seigneuriales étaient des forêts où les paysans avaient des droits de prélèvement, de bois de chauffage, et des droits beaucoup plus limités sur le bois d'œuvre. Et donc l'ordonnance de Colbert en 1669, elle a clarifié, elle a réglementé de manière très stricte les droits d'usage. Et c'est à partir de cette date-là qu'on a commencé à voir les prémices d'une administration forestière qui est arrivé progressivement et puis qui s'est précisé encore avec la naissance de l'école forestière au XIXe siècle. École forestière de Nancy, qui existe toujours finalement, l'Engreff. Ça a fait naître une sorte d'opposition entre un monde intellectuel et assez presque aristocrate, militaire, et puis le monde paysan, jugé sauvage, on va dire, qu'il fallait domestiquer, cadrer. Et donc cette opposition, on la retrouve encore maintenant.
Mais même la Révolution française, j'imagine, a changé des choses, parce qu'en tout cas, certainement, l'accès à des pâturages ou à faire pas mal de droits, en fait, curieusement, ont disparu avec la Révolution française. Finalement, il n'y avait plus de seigneurs. Et ça fait un bouleversement dans certaines zones. Je ne sais pas si ça a touché la forêt aussi.
Oui, elle a fait naître la propriété privée, quelque part.
Donc, dans le 19e siècle, avec, j'imagine, l'industrialisation aussi, il y avait des nouveaux besoins. C'est ça, de bois. Et donc, il y avait cette structure qui, petit à petit, a été créée pour la gestion des forêts. À un moment donné, il y avait les structures privées, et, dominiales, enfin, et puis communales. Petit à petit, ça s'est mis en place, ces différentes structures de propriété, non?
Alors, la forêt de Manielle, c'est un peu ce qui reste des grandes forêts seigneuriales. La forêt communale, c'est les forêts où il y avait des droits d'usage. Et puis la forêt privée, c'est en bonne partie des terres agricoles qui ont été reboisées. Et puis certaines forêts seigneuriales, elles se sont divisées en deux.
Venons à la question de comment ça fonctionne le système aujourd'hui. Quels sont les acteurs majeurs actuellement dans la gestion de la forêt?
Alors on a les acteurs qui sont confrontés à la gestion de domaines publics. C'est assez simple, c'est l'Office national des forêts, c'est-à-dire toutes les forêts qui appartiennent aux collectivités territoriales, que ce soit des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux éventuellement, ou des organismes sociaux, les CCAS, ont des bois qui sont soumis au régime forestier, et donc qui doivent être gérés par l'Office national des forêts, jusqu'à un nouvel ordre. Donc ça, c'est l'acteur principal de gestion des forêts publiques.
Qui représente en gros quel pourcentage des forêts ?
Un quart, oui. Ça veut dire, et ça la plupart des gens ne le savent pas, que trois quarts de la forêt française est une propriété privée. Et donc cette propriété privée, elle est encadrée, enfin elle est accompagnée, on va dire, par les techniciens du centre régional de la propriété forestière. Dans chaque région, il y a un centre régional de la propriété forestière, et donc des techniciens, des ingénieurs, qui sont amenés à accompagner les propriétaires privés.
C'est-à-dire apporter des conseils, comment il faut le faire, faire des plans de gestion, c'est ça?
Alors plus qu'apporter des conseils, ils sont amenés à orienter sur base de la loi d'orientation forestière, des orientations nationales, ils sont amenés à orienter la gestion des forêts privées au niveau régional. Mais la confusion qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'il fait partie des attributions des techniciens de CRPF de réaliser et de mettre en place les plans simples de gestion. C'est absolument pas le cas. Ce ne sont pas eux qui font la gestion sur le terrain. Ils encadrent, ils orientent la gestion des propriétaires privés, mais en aucun cas ils réalisent, ils mettent en place la gestion.
Mais est-ce que c'est d'une manière ou l'autre contraignant, ou est-ce que c'est plutôt, voilà, ils disent aux propriétaires, ben, ce serait mieux de faire comme ça, mais finalement le propriétaire peut faire comme il veut.
D'une certaine manière, c'est contraignant, puisque tout propriétaire, pour prendre un exemple, de plus de 25 hectares d'un seul tenant, est obligé de réaliser ou de faire réaliser un plan simple de gestion qui doit suivre un certain nombre de règles qui sont définies au niveau régional. Et le propriétaire qui ne réalise pas ce plan de gestion est d'emblée soumis à ce qu'on appelle le régime spécial d'autorisation de coupe, c'est-à-dire avant chaque coupe, il est obligé de demander l'autorisation de la DDA. Donc là, il y a quand même une contrainte. À partir du moment où le plan simple de gestion est agréé, tout ce qui est inscrit dans le plan de gestion est considéré comme acquis.
D'accord. Qui est-ce qui alors va s'occuper, par exemple, pour des petits propriétaires ou je ne sais pas quoi, du travail proprement dit dans la forêt ?
Bon, il y a plusieurs intervenants. Hein. Pour les petites propriétés privées, c'est souvent très très simple. Bon, le propriétaire fait appel un exploitant, quand ce n'est pas l'exploitant qui fait le démarchage directement, qui propose un prix, qui propose une opération. Pour les plus grandes forêts privées, là, c'est soit une coopérative, soit un expert forestier, soit encore un technicien forestier indépendant qui intervient pour le compte du propriétaire pour réaliser le plan simple de gestion, pour proposer une stratégie, proposer des opérations et pour marquer, cuber, mettre en vente les bois. Alors ça, c'est le schéma classique, on va dire.
Et les coopératives, ils datent de quand ?
Les coopératives sont nées après la Seconde Guerre mondiale, puisque là, il y a eu, dans le sillage du plan Marshall, etc., toute une envie de reconstituer la ressource bois nationale, qui a été extrêmement surexploitée, évidemment, pendant la Seconde Guerre. Donc il fallait reconstituer la ressource bois pour le développement de l'industrie papetière, le développement de l'industrie de la construction également, et de la trituration. Hein, trituration, c'est les panneaux de particules, par exemple. Et donc on a subventionné la reconstitution de la forêt, principalement en essence résineuse, grâce au Fonds forestier national, à partir des années 50. Et donc l'État a décidé de mettre en place des structures d'accompagnement, hein, puisqu'il ne s'agissait pas uniquement d'investir, il fallait suivre les résultats de cet investissement, on va dire. Donc elle a mis en place dans chaque région des techniciens forestiers pour accompagner le développement de la filière. Et c'est devenu progressivement des coopératives, puisque dans l'environnement de chaque chambre d'agriculture, il y avait des techniciens forestiers. Et puis en réponse aux besoins des propriétaires, sont nées les coopératives. Au départ, dans les années 70, on pouvait compter une cinquantaine de coopératives. C'était des toutes petites coopératives. Aujourd'hui, on a, on va dire, 6 coopératives qui font 70% du volume. Il y a eu un mouvement de fusion très très important.
J'ai l'impression que il y a peut-être deux critères ou deux tendances qui peuvent être contradictoires qui sont en jeu là. Parce qu'il y a d'une part les besoins de l'industrie, du marché, et en même temps, si on regarde l'intervention même à l'époque de Colbert ou autre, c'était aussi un souci de protéger une forêt qui était trop exploitée, qu'il y avait une surexploitation de la forêt, donc il y avait quand même aussi un souci pour la forêt, quoi, de protection, plutôt dans un bon sens. Est-ce qu'au début, les coopératives, peut-être c'était toujours ces deux choses qui jouaient en même temps ?
Non, que ça soit dans un cas comme dans l'autre, c'était une manière de protéger la ressource bois, la ressource ligneuse, pour des intérêts nationaux. Au moment de Colbert, des intérêts surtout territoriaux, hein, la marine et la défense nationale. Aujourd'hui, c'est pour défendre la ressource bois dans un cadre de compétitivité de la filière bois au niveau international. Voilà. Mais je ne perçois pas dans l'histoire, ou en tout cas de manière très très indirecte, une protection de la ressource et de la forêt avec un objectif écologique. Là où on peut un petit peu le sentir, c'est dans la volonté de garder la fonction de chasse, puisque quand même les seigneurs étaient des grands chasseurs. Et c'est une ironie de l'histoire, mais là où on a aujourd'hui les plus belles forêts, les forêts les plus préservées, c'est bien souvent là où il y a eu une fonction de chasse importante. Les forêts domaniales étaient des forêts très chassées, avec la chasse à cours.
Et c'était pour ça qu'il ne fallait pas avoir, par exemple, monoculture de Douglas ou je ne sais pas quoi.
Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ressent ça encore. Hein. On pourrait parler de la chasse très longuement, mais... Le gibier, enfin les herbivores, toute la faune chassée ne s'y trompe pas. Elle sait très bien où elle aime aller. Et donc les chasseurs auraient tendance à apprécier la diversité des milieux et donc à aller plutôt dans le sens de l'écologie. Alors que la production intensive de bois, ça ne va pas vraiment dans ce sens-là.
Mais si on parle d'écologie, bon, c'est un mot qu'il y a 50 ans, il n'existait quasiment pas. Mais bon, si on le compare la France avec un pays comme la Suisse, en Suisse, il y a des forêts très mixtes, il y a une approche à la gestion forestière qui est assez différente qu'en France. Et peut-être à l'époque, ils n'ont pas utilisé le mot écologie. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a une telle différence ? En Suisse, on voit la forêt autrement et il y a vraiment des contraintes envers les propriétaires. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a très peu de coupes rases, par exemple, etc. par rapport à la France, quoi.
Alors ça, c'est aussi l'effet forêt de montagne. En Suisse, en forêt noire et dans les Vosges, il y a un phénomène particulier, c'est-à-dire que les paysans, les éleveurs étaient très investis en forêt, puisque l'hiver, ils travaillaient en forêt. Donc ça a créé un lien au niveau du territoire entre l'agriculture et la forêt. Mais pour la Suisse en particulier, ce qui a énormément joué, c'est la conscience que les avalanches et les crues sont très fortement limitées par une forêt diversifiée et sans coupe rase. Donc... On a toujours eu le souci de ne faire en forêt que de la cueillette et de ne jamais faire des coupes rases parce qu'on savait très bien que ça allait poser des problèmes pour les villages et pour les villes.
Alors ici, maintenant, si on regarde la situation actuelle en France, en tout cas, on a l'impression que il y a une très grande pression sur la forêt. Bon, en fait, en même temps, il y a jamais eu autant de forêts, enfin, la forêt prend de l'ampleur quelque part, mais en même temps, il y a beaucoup de coupes rases ou sauvages, il y a l'industrie qui cherche, il n'y a pas du tout de mise en question de cette forme de gestion.
Moi, je n'irai pas jusque-là, mais par contre, ce qui est clair, c'est que la gestion forestière en France, elle est basée sur une tradition de futaie régulière. Hein, puisqu'on parlait de la Suisse, en Suisse, il y a une tradition de futaie irrégulière. Et la futaie irrégulière, c'est une futaie où les âges sont mélangés. Hein. Donc au niveau paysager, écologique, évidemment, c'est intéressant. La futaie régulière, c'est une futaie composée d'une juxtaposition de peuplements où tous les arbres ont le même âge.
Logiquement, ça veut dire qu'on a des arbres qui démarrent en même temps et qui vont être logiquement coupés aussi en même temps.
Oui, avec une petite subtilité, c'est qu'on peut faire de la futaie régulière, comme on dit, régénérée par coupe progressive, comme on fait dans la forêt de Troncay, qui est un des exemples, une forêt mythique en France, quoi. Et donc, on va exploiter les arbres à un stade mûr en plusieurs fois. Donc, on n'exploitera les derniers arbres, les derniers semenciers, que quand on sera sûr d'avoir obtenu en sous-étage la régénération complète, donc le futur peuplement. Donc, c'est une nuance de la futaie régulière. Mais de manière générale, les orientations de gestion forestière en France ont énormément de mal à sortir de ce modèle-là, sortir de la coupe rase, ou en tout cas... qu'elle soit, on va dire, étalée en plusieurs fois ou en une seule fois.
Pour comprendre bien, donc, la futaie irrégulière, ça veut dire qu'il y a des arbres de différents âges. Il n'y a jamais un moment où tout d'un coup, il n'y a que des tout petits. Il y a une sorte de permanence.
Oui, il y a en permanence du bois sur pied, il y a en permanence des arbres. Donc, il n'y a pas de rupture dans l'écosystème forestier. Après, le caractère régulier, il se trouve aussi dans un autre régime, puisqu'en forêt, on a différents régimes. On a la futaie, le taillis, le taillis sous futaie. Dans le taillis, on a aussi la pratique de la coupe rase. Elle a été très, très utilisée en France, à partir du 17e siècle pour les forges. Donc, tous les 15, 20, 25 ans, on rasait tous les arbres par coupons de taille variable. Et puis, entre cette coupe et la coupe suivante, on ne faisait rien du tout. On laissait juste repousser. Aujourd'hui, en région méditerranéenne, par exemple, on trouve encore cette pratique-là de manière très représentée.
Est-ce que c'est lié tout ça à tout simplement des critères de rentabilité, la facilité de travail, mais aussi, par exemple, les machines, que c'est plus facile à simplement y aller et couper tout, que travail plus sélectif, de choix d'arbres, et en plus de sortir des arbres d'une forêt qui reste entière, c'est plus compliqué. Je veux dire, est-ce que c'est aussi ça la raison pourquoi on est tellement dans cette, les coupes rases, etc.
Bien sûr, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, plus on se rapproche de la coupe rase et plus le volume prélevé à l'hectare est important. Plus le volume prélevé à l'hectare est important, plus le coût du travail d'abattage et de débardage au mètre cube est faible. Donc, dans des forêts où la valeur unitaire du mètre cube est importante, on peut assez facilement faire de la coupe sélective. Dans des forêts où la valeur individuelle au mètre cube, la valeur de l'arbre est faible, on a tendance à faire des coupes rases. C'est le cas typique de la forêt méditerranéenne.
Mais certains disent que même dans la forêt méditerranéenne, qui n'est pas une grande forêt, ça pousse lentement, ça ne devient pas très très grand, etc. Mais le volume total par hectare à long terme va être plus important avec un travail sélectif qu'avec un travail avec des coupes rases. Mais c'est peut-être plus compliqué.
Oui, c'est plus compliqué, mais je suis d'accord avec cette position. C'est-à-dire, si on pratique régulièrement le taillis, la vigueur des souches diminue, les arbres finissent par s'épuiser, et donc l'accroissement, la production biologique chute. Donc on se retrouve avec des arbres de plus en plus bas, et avec des forêts de plus en plus pauvres. Et à un certain moment, certains forestiers hésitent à tout simplement faire une dernière coupe rase et reboiser avec des résineux, ce qui représente un coût de plus pour l'écosystème, quoi. Donc le fait d'avoir une pratique de rénovation de taillis, donc de sélectionner sur chaque souche un brin, deux brins, trois brins, qui vont en définitive reconstituer une futaie, qu'on va appeler futaie sur souche, ça peut permettre à l'écosystème progressivement de retrouver une certaine vigueur et donc d'avoir à terme des volumes à l'hectare plus élevés. Mais ça demande pendant tout un temps un travail très fin, qui techniquement est difficile, très intéressant mais difficile, et évidemment des coûts d'exploitation plus élevés. Il faut que le propriétaire soit prêt à regarder le long terme, tout l'intérêt du long terme par rapport au court terme.
Non mais c'est juste pour dire qu'il est hyper important. Quand tu bosses en forêt, quand tu coupes, au moment où tu fumes ta clope, il est hyper important de mesurer l'âge de ce que tu as coupé. Sinon tu ne peux pas avancer, tu peux balancer des chiffres comme ça mais tu n'avances pas. C'est tout, vrai. Hein.
C'est vrai. Allez.
C'était Entre Cimes et Racines, une émission de Radio Zinzine réalisée en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières et avec le soutien de l'Association Reliée et de la Fondation pour une Terre humaine. Pour tout renseignement sur le réseau pour les alternatives forestières, contactez son coordinateur Gaëtan Dubus au domaine du Chalet, route de Chalabre, 11300 Limoux, ou par courrier électronique gdubus, donc G-D-U-B-U-S dans un seul mot, @gestion-forestiere-sud.com. Vous pouvez également consulter la page forêt sur le site internet de l'association Reliés, www.reliés.info.